Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. On ne peut malheureusement l'ignorer, cette nouvelle série du balado Inclusion Inc. s'inscrit dans un net recul de l'EDI aux États-Unis, entre autres depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Plusieurs experts se sont positionnés sur le sujet déjà et j'étais curieuse de savoir si ce recul aura des échos au Canada. Bref, j'aimerais qu'on voit plus loin que ces nouvelles affligeantes pour l'EDI. Ça tombe bien, c'est le nom de l'entreprise de notre invitée, Elisabeth Petit, de loin devant Ressources humaines, qui a développé une spécialité en EDI. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, Madame Doré, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Je voulais voir un peu, ben, d'abord, votre lecture à vous de la décision du président des États-Unis là, de mettre la hache, ou j'ose pas dire la tronçonneuse là, dans les programmes d'EDI. Comment vous voyez ça?
Oh là là! en fait, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans un mouvement plus que dans un individu seulement, puisqu'on voit de grandes organisations qui prennent des décisions consécutives à ce positionnement-là. Donc, est-ce que c'est M. Trump qui a généré cette prise de décision-là ou c'était déjà dans les cartons des organisations? Bon, ça, l'avenir, l'histoire nous le dira. Mais j'ai l'impression donc que ça s'inscrit peut-être dans quelque chose de plus grand, oui, ou de plus large, de positionnement ou de dogmatisme là, qui s'installe entre les différentes postures par rapport à l'EDI.
Oui, ça fait quand même quelques mois qu'on voit des entreprises, des géants comme Walmart, par exemple, qui ont annoncé la fin de des programmes EDI. Puis c'est un sujet auquel on s'intéresse ici à Inclusion Inc. Donc, comment vous pensez que ça pourra peut-être avoir un écho au Canada?
Bien, assurément, ces organisations-là peuvent avoir des branches canadiennes ou québécoises, qui donc parfois leurs programmes sont très locaux, mais parfois viennent ou proviennent des corporations. Donc, je pense que déjà à ce niveau-là, il peut y avoir des reculs ou des postures qui vont être différentes, ou en tout cas un refus de par exemple mettre en place un quota ou une initiative comme le défi 50-30 parce que on décide de couper dans la hache aux États-Unis, puis on décide que ça sera conséquent aussi au Canada ou au Québec.
Elisabeth, défi 50-30, oui, pour nos auditeurs, de quoi il s'agit?
Oui, oui. En fait, le défi 50-30, c'est une initiative pan-canadienne pour inviter les organisations de façon volontaire à avoir une représentativité de 50% de femmes, notamment dans leur posture et leur position de gestion, mais aussi dans leur organisation, et 30% des membres des minorités visibles et minorités ethniques. Je vous invite à taper sur n'importe quelle barre de recherche défi 50-30 là, et à aller y jeter un œil. Vous allez y trouver beaucoup d'outils pratiques pour les organisations.
Mais c'est pas un peu ce que les tenants de ce mouvement de recul prônent, que ce sont des quotas qui font en sorte que ça ouvre la porte, ça enlève la lumière sur le mérite des choses. Et puis bon, je veux pas reparler des propos de Donald Trump, mais il a accusé plusieurs malheureux incidents dernièrement à ce type de quotas, comme si pour atteindre ces quotas-là, on privilégierait des gens qui auraient peut-être pas la compétence. Et je pense qu'il y a vraiment une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de ce qui est l'EDI. Je compte, ouais, sur vous pour nous expliquer ça.
Ah, oui, bien effectivement, il y a comme n'importe quelle tendance ou n'importe quel sujet, il y a plusieurs écoles de pensée. Donc, l'EDI ne fait pas abstraction de ça. Il y a des écoles de pensée qui vont dire « nous encourageons les quotas », d'autres écoles de pensée vont dire « non, on n'en veut pas ». Mais ultimement, on se rejoint tous sur le fait qu'il y a des groupes de personnes ou des personnes qui sont en quête d'équité, qui ont été souvent marginalisées, discriminées, systématiquement mises de côté dans nos organisations, dans les programmes de recherche, les universités, etc. Et donc, ces programmes-là cherchent à rééquilibrer pour obtenir équité et égalité en emploi, donc de ces personnes. Et pour rééquilibrer, ben, il y a des tenants et des manières, des méthodes de faire qui sont notamment de fixer des objectifs ou des seuils de représentativité. Et c'est comme si on venait dire, ben, parce qu'on veut avoir une équipe qui est 50 % hommes, 50 % femmes, nécessairement, les femmes qui seront dans notre équipe, ce seront de mauvaises joueuses.
Ben oui, hein? C'est ça, c'est ce que ça laisse entendre. C'est que si on veut atteindre certains quotas, c'est comme si on va faire une concession sur la compétence, alors que c'est pas ça. C'est d'éliminer certaines barrières systémiques qui fait que des personnes compétentes issues de ces groupes-là n'aient peut-être pas accès à faire voir leurs compétences, justement, leur feuille de route.
Oui, exactement. Puis la méritocratie, c'est un concept qu'on aime beaucoup mettre de l'avant parce que ça souligne que effort égale succès et qu'on se convainc que rien n'est du hasard ou du fait d'être né dans une famille X ou Y. Mm. Mais il reste que de nombreuses études sociologiques ou anthropologiques ou d'organisation du travail démontrent en fait que c'est une grande inégalité que la méritocratie parce que il n'y a rien de plus injuste que l'endroit où on est né, dans quelle famille ou l'accès aux études, par exemple. Cela dit, ça n'enlève en rien l'effort qu'on peut y avoir mis, mais nécessairement, il y a des gens qui vont devoir mettre beaucoup plus d'efforts pour obtenir les mêmes résultats. Et la méritocratie ne prend en aucun temps ce passage-là, ces étapes-là. Donc, finalement, c'est un grand paradoxe moderne qui nous amène plutôt à générer des inégalités. Il y a d'ailleurs des études qui ont démontré que dans les organisations qui se disaient méritocratiques, les écarts salariaux étaient encore plus importants que dans d'autres types d'organisations. Donc, on voit franchement que les programmes d'accès à l'égalité en emploi ne mettent pas de côté le mérite, la compétence, l'effort, le succès. Et c'est très dévalorisant pour les personnes, finalement, qui obtiennent des fonctions, qu'on leur dise que vous avez obtenu la fonction parce que, et non pas pour vos compétences.
Oui, ben et c'est pour ça que j'ai quand même un certain espoir au Canada parce qu'on a, il me semble, des valeurs un petit peu plus inclusives en partant, alors qu'aux États-Unis, tu sais, on parle de l'American Dream, je me démarre, je pars quelque chose et on vante quasiment l'échec comme étant une façon d'apprendre et on peut devenir qui on veut, alors que ça, effectivement, ça laisse dans l'ombre ces inégalités-là qu'on ne veut pas reconnaître.
Oui, puis en fait, dans notre monde canadien, on n'est pas non plus, parce qu'on met en place, par exemple, plus de politiques d'EDI, on n'est pas à prédire que les gens feront plus d'efforts pour obtenir des résultats, avoir des fonctions importantes. On n'est pas à prédire que tout le monde doit être paresseux et paresseuse, là, pas du tout, hein? On est plutôt à prédire qu'on doit tenir compte de là où on le point de départ de chacun et chacune, puis comment on doit ajuster les choses. Et est-ce que le Canada est plus ouvert? J'aimerais me convaincre à tous les jours que c'est le cas, mais je pense que c'est pas l'histoire d'un pays plus que des individus. Donc, à tous les jours, on rencontre des personnes qui sont potentiellement plus ouverte à ce multiculturalisme ou cet interculturalisme, par exemple, et d'autres personnes qui sont plutôt fermées et vont chercher à nous dire que nous sommes des woke.
Ben oui, parlons-en de ce fameux mot. On entendait, pour reciter Trump encore, que nous ne serons plus un pays woke, nous ne vivrons plus la tyrannie du wokisme. Et dernièrement, vous avez fait une publication sur votre profil professionnel LinkedIn où vous dites haut et fort « Oui, je suis woke ».
Ouais,
expliquez-nous là, ce que ça veut dire, parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend plus tôt ce que ça veut dire. Et moi, j'ai bien aimé toutes les discussions, les débats qu'il y a eu autour de la déclaration de Jane Fonda dernièrement, qui disait « ben oui, je suis woke parce que ça veut dire que je me soucie puis j'ai à cœur les intérêts des gens ».
Oui, exactement. Puis, en fait, le mouvement woke a des racines profondes dans la lutte des droits civiques. Puis ça a été détourné par des mouvements, effectivement, d'extrême droite comme une insulte aux personnes qui croyaient à l'instar de Martin Luther King, à cet éveil des consciences pour plus d'humanisme, d'émancipation. Donc, le mouvement a pris racine dans ce collectif d'émancipation pour éventuellement être récupéré. Donc, aujourd'hui, on l'utilise souvent pour qualifier les personnes qui sont ouvertes à l'EDI comme étant comme une insulte. Mais en fait, moi, j'ai envie de me réapproprier le terme « je suis woke » parce que moi, je suis fière de dire, moi, l'égalité des chances, l'équité dans nos institutions, pour moi, c'est important. C'est important, pardon, honorer les premiers peuples. Pour moi, ça fait partie de ma culture, on doit honorer les savoirs, les injustices, il faut les dénoncer. L'amour, quelles qu'elles soient, les formes ou les personnes, c'est important. Donc, pour moi, ces éléments-là de « je suis woke », ben si c'est ce que ça veut dire être woke, ben je l'apprends l'insulte parce que je suis fière d'avoir cette ouverture, de déconstruire les systèmes qui divisent finalement l'humanité entre le « nous » et le « eux ». Et c'est cette rhétorique en ce moment qu'on entend de plus en plus, le « eux », le « nous ». Oui. Je suis fière et je suis fièrement woke. Voilà.
J'adore, je prends l'insulte.
Ah oui!
Ben oui, souvent, c'est vu comme des empêcheurs de tourner en rond.
Oui, 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 définitivement. Puis, tu sais, ultimement, s'inscrire dans un mouvement, peu importe lequel il est, on dérange, on perturbe. Donc, bien sûr, je suis sur la zone inconfortable. Parfois, je déplais, parfois, je plais. Mais on ne pourra pas dire que j'assume pas pleinement ma posture, ma position. Mais un élément qui est important dans l'EDI, puis j'y crois fermement dans cet aspect de justice sociale, c'est aussi de pas se braquer à ces opinions-là qui nous challenge, qui nous défie, parce que il y a des vérités qui peuvent être intéressantes à entendre, des préoccupations. Si je prône l'ouverture, ben il faut aussi qu'on bâtisse des ponts l'un vers l'autre. Et là, la bienveillance, l'écoute et donc de sortir de cette polarisation pour construire quelque chose ensemble me semble encore plus hautement important dans cette période-ci.
Élisabeth, vous m'enlevez les mots de la bouche. J'allais justement dire, il faut bâtir des ponts, créer des liens. J'aime me définir comme une créatrice de liens et je crois que c'est une compétence, une expertise dont on va avoir besoin dans les prochaines années. Et je me demande si ce regard-là qu'on a fait de transformer le wokisme en insulte, est-ce qu'il n'y a pas certains liens un peu générationnels où on n'a pas associé cette posture-là? Parce que d'être conscient, c'est à travers le temps. Il y a toujours eu des groupes, il y a toujours eu des citoyens pour s'interposer à un manque de justice. Mais là, j'ai comme l'impression, puis peut-être à tort, mais qu'on le couple à une vision des millennials et des Z qui sont offusqués pour tout et pour rien. Ça se peut-tu qu'on fait une lecture qui n'est pas tout à fait juste?
Ah, faudrait demander à ceux qui l'utilisent quand ils nous insultent qu'est-ce qu'ils mettent dans cette définition-là. Je pense qu'il fut un temps où on parlait de gauchistes, environnementalistes, puis là, éventuellement de féministes, hein, parce que il y a aussi cette étiquette-là qui fut un temps difficile à porter. Donc, est-ce que wokisme est le nouveau terme fourre-tout de ces tendances ou ces questionnements-là sur notre civilisation ou notre société actuelle. Donc oui, ça implique beaucoup. Je pense que ça s'inscrit dans un mouvement de génération probablement. En même temps, ce mouvement-là se prête à toute personne, tout genre confondu, tout âge confondu ou génération confondue. Il y a des personnes de partout qui peuvent vraiment s'afficher comme tel, au sens de ben moi, j'embrasse l'inconfort que ça génère, cette transformation-là. Je veux créer des espaces pour qu'on puisse s'exprimer pleinement. Je vise cette idée de composer une société humaine et ça transcende les générations, là, même si le terme est peut-être associé à une génération.
Oui, ben on voit aussi plus largement dans la société, j'ai comme l'impression un espèce de retour à des comportements, ben, peut-être pas des comportements, mais à des influences masculinistes. Et c'est un peu étonnant. Moi, j'ai des fils dans vingtaine, trentaine, et ce sont eux qui m'ont sensibilisé un peu à ces mouvements-là de masculinistes. Et j'étais assez surprise de voir cette espèce de retour-là et une espèce de besoin de se camper dans un rôle, une posture vraiment très précise. C'est blanc ou noir.
Oui, oui, oui. Puis c'est Il n'y a plus beaucoup de nuances. Est-ce que qu'est-ce qui nous amène à avoir le moins en moins de nuances? C'est peut-être parce que ce qu'on entend, par exemple, du président Trump est tellement fort, à la limite, pour moi, me dégoûte ou me rend en colère que peut-être j'appuie encore plus sur les mots moi-même que j'utilise. Donc, au bout de la ligne, on est tous après se camper davantage. Donc, il faut certainement... user de plus de conversations, plus de dialogues, plus de cercles de discussion, plus comprendre qu'est-ce qui amène les garçons à cette pensée masculiniste, qu'est-ce qui les apporte, qu'est-ce qui ne répond pas à leurs besoins actuellement dans notre système, dans notre société. Parce que lorsqu'on choisit d'aller dans un chemin ou un autre, c'est pas j'ai tort, t'as raison, ou j'ai raison, tu as tort, c'est j'ai des besoins et je cherche à y répondre. Donc, quels sont ces besoins-là que notre jeunesse masculine, par exemple, exprime puis qu'on n'arrive pas à répondre? Quel est l'espace qu'on leur fait, qu'on leur donne? Je pense qu'il y a cette partie-là aussi dans les mouvements qui s'inscrit dans notre société répond-elle encore aux besoins de sa jeunesse, par exemple?
Élisabeth, vous avez travaillé, je crois, dans des milieux, dans des entreprises privées où c'était des milieux fortement masculins. Je crois, qu'est-ce que vous en faites comme lecture un peu pour avoir été justement plus en présence d'hommes en tant que collègues?
Oui, en fait, tout mon parcours, ça a vraiment été dans des fonctions de leadership ou non, mais toujours dans des milieux à prédominance masculine. Puis des fois, je me souviens qu'au début de ma carrière, je me disais, oh, je préfère un milieu comme celui-là parce que dans un milieu de filles, ça parle trop. Mais finalement, j'étais dans le préjugé. Je l'assume pleinement aujourd'hui. Il n'y a pas un milieu qui est mieux ou moins ou meilleur que l'autre. Mais comme femme, j'ai quand même réalisé que faire ma place était difficile. J'ai réalisé que j'avais plus d'efforts à faire pour démontrer, par exemple, ma maîtrise des éléments financiers, qu'on me demandait davantage de disponibilité ou encore qu'on présumait de mes intentions par rapport à la suite de ma carrière versus la maternité. Donc, il y a vraiment des comportements ou des micro-agressions, des situations dans lesquelles j'étais inconfortable, mais ça m'a pris plusieurs années dans ma carrière pour réaliser que c'était pas moi le problème, mais c'était la façon qu'on avait en équipe de gérer ces sujets ou ces discussions-là qui avaient un souci. Donc, c'était culturel, hein? Donc, quand on parle de culture inclusive, c'est pas des individus plus qu'une culture qui doit être inclusive. Et ben voilà, j'étais dans des organisations qui, à ce moment-là, étaient peut-être pas dans cette mouvance inclusive. J'ose croire que aujourd'hui, les années avancent et que les organisations se positionnent différemment par rapport à ces sujets.
Élisabeth, on fait une courte pause et on va creuser un petit peu plus le lien entre la culture organisationnelle et le DI, si vous voulez bien.
Oui, merci.
Retour au balado Inclusion Inc. Nous discutons avec une spécialiste en ressources humaines et en équité, diversité, inclusion, Élisabeth Petit de Loin Devant. Élisabeth, on avait commencé à parler de l'influence de la culture. Quel lien on fait entre la culture organisationnelle et le DI? J'ai comme l'impression que, dépendamment de notre culture, on est davantage sensibilisé, davantage ouvert, et que si notre culture organisationnelle a pas certains, je dirais, bases, ben on va peut-être à ce moment-là être moins ouvert à ce type de programme. Ça se peut?
Oui, il y a certainement des conditions qui nous amènent comme organisation à être plus naturellement enclin à parler de justice sociale, d'équité, de diversité, d'inclusion. Cela dit, c'est pas parce que nécessairement on travaille dans un secteur ou dans un milieu d'activité qui a ces valeurs-là qu'on est exempt de biais ou de préjugés. Hein. C'est moi-même qui travaille dans ce domaine-là, j'en ai plein, puis je vous avoue que je suis loin d'être parfaite. Par contre, comme organisation, lorsqu'on est plus déjà engagé sur le sujet, ça veut dire qu'on a une culture aussi où les gens se remettent en question sur ces préjugés-là. Est-ce qu'on prend des décisions basées sur des prérogatives personnelles, nos propres visions de la vie. Donc, c'est une organisation qui se questionne, qui est ouverte, qui est dans la collaboration. Ça va être une organisation aussi qui va mettre en place une équipe de leadership qui partage cette ouverture d'esprit, qui s'engage fondamentalement à remettre en question quotidiennement leur posture.
Mais c'est pas un peu ça, justement? C'est pas un peu ça qui est la trame de dire les gens qui ont cette capacité-là d'être en introspection sont plus portés à être dans ce type de valeur-là, alors que quand on est vraiment dans une posture ferme où c'est moi contre les autres, mon opinion contre la tienne, bien, c'est difficile d'être ouvert à ce type de programme-là.
Définitivement, la conscience de soi, c'est une pierre angulaire dans l'avancement des pratiques en équité, diversité, inclusion. Il faut avoir un minimum de sensibilité par rapport à soi-même, à dire qu'est-ce qui est dans mon angle mort, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que les autres voient que je ne vois pas. Qu'est-ce que les autres ont à m'apporter sur la lecture de la situation, du projet, du mandat. Donc oui, ça prend d'ouverture d'esprit, de la conscience de soi, de l'humilité également. Il faut être en mesure de dire « Oh, je me suis trompée ici lorsque j'ai pris telle décision ». J'ai pas réalisé que ça pouvait exclure des groupes ou des personnes ou que je n'ai pas pris en compte certaines opinions ou avis. Et donc, ouais, c'est très important comme individu, comme gestion et donc comme culture organisationnelle de se donner le droit à l'erreur. C'est fondamental aussi pour pouvoir avancer en termes d'équité, diversité et inclusion.
Oui, bien, j'avais noté aussi cette phrase-là qui dit la culture organisationnelle, c'est quel est le pire comportement qu'on tolère?
Oui, absolument, parce que du moment où on accepte une situation qui, dans les yeux de l'autre, est inacceptable, on vient de mettre le minimum accepté en place. Et après, tout le monde vient tester la limite, etc. Donc, les climats toxiques existent parce qu'on a accepté la toxicité. Hein? Les climats toxiques arrivent parce qu'on n'a pas le courage nécessairement de prendre des décisions. Et à la base, le climat toxique, c'est une situation où il manque d'équité, diversité et inclusion, c'est-à-dire qu'on manque d'ouverture, de collaboration, on n'aime pas les idées divergentes, on n'applaudit pas les personnes qui sont justement champ gauche ou champ droite de nos opinions. C'est pas facile de se faire challenger. Là. Moi, sur ce sujet-ci, je me fais énormément challenger, mais il faut se garder une posture d'ouverture. C'est ce qui va nous amener plus loin, loin devant.
Joli clin d'œil.
Oui.
Il n'y a pas tous des enjeux de leadership là-dedans, puis de promotion. Puis là, je m'adresse à la spécialiste en ressources humaines. J'ai souvent vu dans des milieux énormément de campagnes de communication sur les compétences interpersonnelles, la communication, la bienveillance, la santé mentale. Puis en même temps, on constate qu'il y a des gestionnaires en place qui font tout le contraire de ce qui est prôné dans l'intranet. Et je me mets à la place des employés. Ça peut devenir un peu... on assiste à une certaine dichotomie, puis à la limite même entraîner du cynisme. Quand tu vois que les dirigeants qui sont tes patrons vont complètement à l'encontre, mais comme employés, on nous demande de respecter ces comportements.
Oui, absolument. Puis on l'observe dans les organisations, malheureusement plus souvent qu'autrement, parce que lorsque ça arrive, souvent c'est parce que la haute direction n'a pas nécessairement eu un engagement ferme. Donc, avoir une structure de gouvernance inclusive qui déjà, comme structure de haute gouvernance, donne l'exemple et valorise les perspectives, si déjà nous manque ça, on vient d'enlever une couche de succès pour nos leaders qui vont... poursuivre le message auprès des collègues, des employés, des talents qui composent notre équipe. D'autre part, le leadership inclusif, bien, on le disait, ça demande une conscience de soi, ça demande un engagement, donc ça demande des efforts. Donc, à travers notre quotidien de gestionnaire, est-ce que j'ai le temps de m'arrêter et de dire « Attendez, là, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire ici? » Ben non, je vais le faire vite, ça va passer rapidement. Donc, c'est assez exigeant comme mandat pour un gestionnaire, c'est vrai. au départ, surtout après, on va se réaliser rapidement que ça va nous donner beaucoup plus d'avancées parce que l'addition des idées va nous amener plus loin. C'est démontré dans de nombreuses études que le sentiment d'appartenance, cette collaboration-là va apporter des nouvelles idées, de la création, une nouvelle cohésion dans l'équipe et ce ciment-là dans l'équipe, c'est le ciment pour la performance, pour la mobilisation, si on veut absolument parler en termes d'affaires. Si on le ramène aux bénéfices humains, ben le retour sur l'investissement humain est magique là, en termes de retombées. Mais pour le gestionnaire, ça demande de changer de comportement puis ça demande d'avoir l'exemplarité par la haute direction. Ouais.
Bien, vous avez nommé le mot performance. La lecture que je fais, c'est que j'ai souvent l'impression que tout ce volet-là de gestion humaine n'est pas compris, on comprend pas que ça a des impacts économiques, comme si on prend pour acquis qu'un gestionnaire là, tu sais, qui met le poing sur la table, qui bouge, qui est dans l'action, lui va être plus productif et l'autre qui est plus humain, bon, ben c'est beau, ça va emmener des beaux volets pour l'humain, mais que il sera pas aussi productif que l'autre. Et c'est cette dichotomie-là, moi, qui m'embête.
Ouais,
comme si c'est un ou l'autre.
Oui, bien, puis c'est malheureux parce que, justement, on fait le un ou l'autre.
Oui.
En même temps, on veut souvent des résultats rapides. Puis l'EDI, ben, oui, c'est pas une transformation rapide. Parce que si c'était rapide, on l'aurait tous fait demain matin, puis hop, hein, mais l'humain étant ce qu'il est, on veut avoir des résultats rapidement, mais on oublie que le changement de paradigme, l'évolution des comportements, la transformation des individus, c'est ce qui va prendre du temps. Donc, on peut penser à 4, 5 ou 10 ans avant de nécessairement voir le réel retour sur l'investissement. Parce que c'est pas demain matin parce que j'ai embauché, je sais pas moi, 3 personnes, 3 femmes dans mon comité de direction. Demain matin, mon comité de direction est nécessairement plus créatif. Il faut de l'inclusion, il faut le sentiment d'appartenance. Puis, une fois que j'ai le sentiment d'appartenance, tout le monde va donner un effort discrétionnaire de plus. Il va y avoir des comportements positifs qui vont générer ultimement plus d'innovation,
mais c'est
création
ça,
et de retour sur l'investissement.
Mais le mot « ultimement », enfin, on pourrait en reparler, mais c'est, je pense qu'avec avec une posture où on veut, je pense juste aux actionnaires là, qui mettent une grande pression au niveau des entreprises cotées en bourse, on veut de la performance rapide et là, il y a tout le contexte économique dans tout ça, puis on se mettra pas à parler des tarifs, mais bref, c'est un... Il y a beaucoup de liens à faire entre l'EDI et la performance. Et ben merci, Elisabeth, de nous avoir éclairé. Je rappelle que votre entreprise s'appelle Loin Devant Ressources Humaines, que vous êtes une spécialiste, entre autres, en équité, diversité, inclusion et que vous êtes woke et fière de l'être.
Merci beaucoup, Mme Doré. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Puis je tiendrai à dire en dernier lieu, c'est pas un sprint, l'EDI, c'est un marathon. Chaque petit pas compte. Soyez patient, patiente.
Petit pas, vous l'avez dit. Merci, Elisabeth.
Merci. Bye-bye.